Chapitre 5. Oui, la démarche des demoiselles de Lavarande était insensée. Au point où en étaient les choses, aller trouver M. Galpin d'Aveline, c'était peut-être lui porter des armes dont il écraserait Jacques. Mais à qui la faute, sinon à M. de Champdoré et à Maître Folga? N'avait-il pas commis une impardonnable imprudence en partant pour Boiscoran sans prévenir? Autre précaution que de faire dire par le domestique de M. Sédéchal qu'il serait de retour pour dîner et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Ne pas s'inquiéter. Et c'est à la marquise de Boiscoran et à Mademoiselle Denise, à la mère et à la fiancée de Jacques, qu'il disait cela. Certainement, sur le premier moment, ces deux infortunées conservèrent un sang-froid relatif, chacune s'efforçant de donner à l'autre l'exemple du courage et de la confiance. Mais à mesure que s'étaient écoulées les heures, leurs angoisses avaient repris le dessus et peu à peu leur douleur s'était exaltée de l'échange de leurs craintes. Elles se représentaient Jacques, innocent et cependant traité comme les pires criminels, seul au fond d'un cachot, livré aux plus horribles inspirations du désespoir. Quelles pouvaient être ses réflexions depuis plus de 24 heures qu'il était sans nouvelles des siens? Ne devait-il pas se croire méprisé, abandonné, renié? « Cette idée est intolérable !» s'écria enfin Mademoiselle Denise. « À tout prix, il faut arriver jusqu'à lui !»« Comment ?» demanda Madame de Boiscoran. « Je ne sais, mais il doit y avoir un moyen. Il est des choses que seule je n'aurais pas osé. » « Mais avec vous, ma chère mère, je puis tout tenter. Allons à la prison. » Vivement, Madame de Boiscoran jeta sur ses épaules son manteau de voyage. « Je suis prête, dit-elle, partons. » Elles avaient bien l'une et l'autre entendu dire que Jacques était au secret, mais ni l'une ni l'autre n'attachaient à cette expression sa réelle et effrayante signification. Elle n'avait nulle idée de cette mesure atroce et cependant indispensable en l'état de notre législation qui supprime en quelque sorte un homme qui le mure dans une cellule, seul en face du crime dont il est accusé, seul à l'entière et absolue discrétion d'un autre homme chargé de lui arracher la vérité. Pour elle, le secret, ce n'était que la privation de la liberté. La cellule, avec son mobilier sinistre, les grilles aux fenêtres, les verrous aux portes, le geôlier secouant ses trousseaux de clés le long des corridors sombres, et le soldat de faction dans la cour. « Il est impossible, disait Madame de Boiscoran, qu'on me refuse de voir mon fils. »« Impossible, approuvait Mademoiselle Denise. Et d'ailleurs, je connais le geôlier Blangin, dont la femme était autrefois à notre service. » C'est donc avec une entière confiance que la jeune fille, de sa main frêle, souleva le lourd marteau de la porte de la prison. Ce fut Blangin lui-même qui vint ouvrir, et à la vue des deux pauvres femmes, un immense étonnement se peignit sur sa large face. « Nous venons voir Monsieur de Boiscoran, » dit résolument Denise. « Ces dames ont donc une permission ?» demanda le geôlier. « Une permission ? De qui ?» De M. Galpin d'Aveline. Nous n'avons pas de permission. Alors j'ai le regret de dire à ces dames qu'il est impossible qu'elles voient M. de Boiscoran. Il est au secret et j'ai les ordres les plus rigoureux. Mademoiselle Denise fronçait les sourcils. Vos ordres, M. Blangin, interrompit-elle, ne sauraient concerner madame qui est la marquise de Boiscoran. Mes ordres concernent tout le monde, mademoiselle. « Vous empêcheriez, vous, une mère désolée d'embrasser son fils ?»« Eh, ce n'est pas moi, mademoiselle. Moi, que suis-je ? Rien, un verrou que la justice pousse ou tire à son gré. » Pour la première fois, la jeune fille eut l'idée que sa tentative pouvait échouer. « Mais moi, mon bon monsieur Blangin, » insista-t-elle, avec des larmes plein les yeux, « moi, me refuserez-vous ? Ne me connaissez-vous pas ? Votre femme ne vous a-t-elle jamais parlé de moi ? » Le geôlier, certainement, était ému. « Je sais, répondit-il, tout ce que ma femme et moi devons aux bontés de mademoiselle. Mais j'ai ma consigne. Mademoiselle ne voudrait pas faire perdre la place d'un pauvre homme. Si vous perdez votre place, monsieur Blangin, moi, Denise de Champdoré, je vous en garantis une qui vous vaudra le double. » Mademoiselle. Douteriez-vous de ma parole, monsieur Blangin ? Dieu m'en garde, mademoiselle. Ce n'est pas seulement de ma place qu'il s'agit. Si je faisais ce que vous me demandez, je serais punie sévèrement. À l'accent du geôlier, madame de Boiscoran comprit que mademoiselle de Chandoré n'obtiendrait rien. N'insistez pas, mon enfant, dit-elle, rentrons. Quoi ? Sans rien savoir de ce qui se passe derrière ces murs implacables ? Sans même savoir si Jacques est vivant ou mort ? Il était clair qu'un rude combat se livrait dans le cœur du geôlier. Tout à coup, d'une voix brève et en jetant autour de lui des regards inquiets, « Parlez, dit-il, m'est interdit, mais n'importe. Je ne vous laisserai pas vous éloigner sans vous apprendre que monsieur de Boiscoran est en bonne santé. »« Ah ! » !»« Hier, quand on l'a amené, il était comme hébété. Il s'est jeté sur son lit à corps perdu et il y est resté sans faire un mouvement plus de 2 heures. Je crois bien qu'il pleurait. » Un sanglot que ne put maîtriser mademoiselle Denise fit tressaillir monsieur Blangin. « Oh, rassurez-vous, mademoiselle, reprit-il bien vite. Cet état n'a pas duré. Bientôt, monsieur de Boiscoran s'est levé en s'écriant « Ah ça, mais je suis stupide de me désespérer ainsi. » « Vous l'avez entendu ?» demanda madame de Boiscoran. « Pas personnellement, c'est Frumence Cheminot qui l'a entendu. »« Frumence Cheminot ?»« Oui, un de nos détenus. » Oh, un simple vagabond, pas méchant du tout, et qui a la commission de monter la garde au guichet de monsieur de Boiscoran et de ne jamais le perdre de vue. C'est monsieur Galpin d'Aveline qui a eu l'idée de cette précaution, parce que les accusés, quelquefois, dans le premier moment, si le désespoir les prend et le dégoût de la vie, un malheur est si vite arrivé. Frumence empêcherait le malheur. Madame de Boiscoran frémissait d'horreur. Mieux que tout, cette précaution lui donnait la mesure exacte de la situation de son fils. Du reste, poursuivit M. Blangin, il n'y a plus rien à craindre. M. de Boiscoran est redevenu calme, tranquille et même gai, si j'ose m'exprimer ainsi. Quand il s'est levé ce matin, après avoir dormi toute la nuit comme un loir, il m'a appelé pour me demander du papier, de l'encre et des plumes. C'est ce que les prisonniers demandent le second jour. J'avais ordre de lui en donner, il en a eu. Et quand je suis allé lui porter son déjeuner, il m'a remis une lettre à l'adresse de mademoiselle de Chandoré. « Comment ? » s'écria mademoiselle Denise. « Vous avez une lettre pour moi et vous ne me la donnez pas ?»« C'est que je ne l'ai plus, mademoiselle. C'est que je l'ai remise, comme c'était mon devoir, à monsieur Galpin d'Aveline quand il est venu avec son greffier méchiné pour interroger monsieur de Boiscoran. » « Et qu'a-t-il dit ?» Il a décacheté la lettre, il a lu et il l'a mise dans sa poche en disant « Bon ». Des larmes, mais de colère cette fois, jaillirent des yeux de mademoiselle Denise. « Quelle honte ! » s'écria-t-elle. « Cet homme, lire une lettre que Jacques m'adressait, c'est infâme !» Et sans songer à remercier M. Blangin, elle entraîna madame de Boiscoran et jusqu'à la maison, elle ne prononça pas une parole. « Ah, pauvre enfant, tu n'as pas réussi !» s'écrièrent tante à la varande lorsqu'elles virent entrer leur nièce. Mais quand Denise leur eut tout appris, « Eh bien, s'écrièrent-elles, nous allons aller le voir, nous, ce petit juge, qui avant-hier encore nous faisait bassement sa cour pour obtenir la dot de notre nièce. Et nous lui dirons son fait. Et si nous n'obtenons pas qu'il nous rende Jacques, nous troublerons du moins son triomphe et nous rabaisserons son orgueil. » Comment mademoiselle de Chandoré n'eut-elle pas adopté l'idée des tantes à la varande, un projet qui donnait à sa colère une satisfaction immédiate et qui servait ses secrètes espérances. « Oh oui, vous avez raison, chère tante » s'écria-t-elle. « Vite, sans perdre une minute, partez !» Incapable de résister à de tels accents, elles se mirent en route sans écouter les timides objections de la marquise de Boiscoran. Seulement, les bonnes demoiselles se trompaient quant aux dispositions d'esprit de M. Galpin d'Aveline. L'ex-prétendant de leur nièce Lavarande n'était pas sur un lit de rose. Au début de cette étrange affaire, il s'y était jeté fiévreusement, comme sur l'occasion admirable qu'il guettait depuis tant d'années et qui devait ouvrir à deux battants les portes jusqu'alors fermées à son ambition. Puis, une fois engagé, l'enquête commencée, il avait été emporté par un courant plus rapide que la réflexion. Aussi, est-ce avec une sorte de satisfaction malsaine qu'il avait vu les charges se multiplier et grossir jusqu'à le contraindre de signer un mandat d'arrêt contre son ancien ami. Alors, il était comme aveuglé par les plus magnifiques espérances. Ne prouvait-elle pas les plus hautes facultés et un savoir-faire supérieur, cette enquête qui, en quelques heures, avait conduit la justice d'un crime presque inexplicable à un coupable que personne n'eût osé soupçonner. Mais quelques heures plus tard, M. Galpin d'Aveline ne voyait plus les événements du même œil. La réflexion le refroidissait, il commençait à douter de son habileté et à se demander s'il n'avait pas agi avec trop de précipitation. Si Jacques était coupable, rien de mieux. Il y avait, c'était clair, de l'avancement pour le juge d'instruction au bout d'une condamnation. Oui, mais si Jacques allait être innocent. Cette idée, se dressant pour la première fois devant M. Galpin d'Aveline, le glaça jusqu'à la moelle des os. Jacques innocent, c'était sa condamnation à lui, Galpin d'Aveline, c'était son avenir perdu, ses espérances anéanties, sa carrière à jamais entravée. Jacques innocent, c'était une disgrâce certaine. On le retirerait de Sauveterre, devenu impossible pour lui après un tel éclat. Mais ce serait pour le reléguer dans quelque pays perdu, sans aucune chance d'avancement. Vainement, il objectait qu'il n'avait fait que son devoir. On lui répondait, si même on daignait lui répondre, qu'il est de ces maladresses éclatantes, de ces erreurs scandaleuses qu'un magistrat ne doit pas commettre, et que, pour la gloire de la justice et dans l'intérêt de la magistrature si violemment attaquée, mieux vaut, en certaines circonstances, laisser un coupable impuni qu'emprisonner un innocent. Avec de telles angoisses, les plus cruelles qui puissent déchirer le cœur d'un ambitieux, M. Galpin d'Aveline devait trouver son chevet rembourré d'épines. Dès 6 heures du matin, il était debout. À 11 heures, il envoyait chercher son greffier, Méchinet, et ils se rendirent ensemble à la prison afin de procéder à un nouvel interrogatoire. C'est à ce moment qu'avait été remise au juge d'instruction la lettre adressée par Jacques à Mademoiselle Denise. Elle était brève et telle que peut l'écrire un homme trop intelligent pour ne pas savoir qu'un prisonnier ne doit pas compter sur le secret de sa correspondance. Elle n'était même pas cachetée, circonstance qui avait échappé à M. Blangin le geôlier. « Denise, ma bien-aimée, écrivait Jacques, la pensée de l'horrible chagrin que je vous cause est ma plus cruelle et presque mon unique souffrance. Dois-je m'abaisser jusqu'à vous jurer que je suis innocent? Non, n'est-ce pas? Je suis victime d'un si fatal concours de circonstances que la justice a dû s'y tromper. Mais rassurez-vous, soyez sans inquiétude, je saurai le moment venu dissiper cette funeste erreur. À bientôt, Jacques. » « Bon, avait dit en effet M. Galpin d'Aveline après avoir lu cette lettre. Elle lui en avait pas moins donné un coup au cœur. Quelle assurance, avait-il pensé. Pourtant, ils étaient un peu remis en montant l'escalier de la prison. Jacques, évidemment, ne s'était pas imaginé que sa lettre arriverait directement à destination. Donc, il y avait lieu de conjecturer qu'il avait écrite pour la justice bien plus que pour Mademoiselle Denise. L'absence de cachet donnait à cette présomption un certain poids. Enfin, c'est ce que nous allons voir, se disait M. Galpin d'Aveline pendant que Blangin lui ouvrait la cellule du prévenu. Mais il trouva Jacques aussi calme que s'il eût été libre à son château de Boiscoran, hautain et même railleur. Impossible de rien tirer de lui. Pressé de questions, il se renfermait dans le silence le plus obstiné ou répondait qu'il avait besoin de réfléchir. Le juge d'instruction était donc rentré chez lui, bien plus inquiet qu'il n'en était parti. L'attitude de Jacques le confondait. Ah, s'il eût pu reculer! Mais il ne le pouvait plus, il avait brûlé ses vaisseaux et était condamné à aller quand même jusqu'au bout. Pour son salut, désormais, pour son avenir, il fallait que Jacques de Boiscoran fût coupable, qu'il fût traduit en cour d'assises et qu'il fût condamné. Il le fallait absolument. C'était une question de vie ou de mort. Voilà précisément quelles étaient ses réflexions quand on vint lui annoncer que les demoiselles de Lavarande demandaient à lui parler. Il se dressa tout d'une pièce et, en moins d'une seconde, son esprit surexcité embrassa toutes les éventualités imaginables. Que pouvaient lui vouloir ces deux vieilles filles ? « Qu'elles entrent ? » dit-il enfin. Elles entrèrent, roides, hautaines, refusant le fauteuil que leur avançait le magistrat. « Je m'attendais peu à l'honneur de votre visite, mesdemoiselles, » commença-t-il. L'aînée des tantes Lavarande, mademoiselle Adélaïde, lui coupa la parole. « Je le conçois, » dit-elle, « après ce qui s'est passé. » Et tout de suite, avec une énergie de dévote flétrissant l'impie, elle se mit à lui reprocher ce qu'elle appelait son infâme trahison. Quoi, lui, prendre parti contre Jacques, son ami, un homme qui s'était employé à lui procurer la faveur d'une alliance inespérée? Par le seul fait de ses espérances de mariage, il faisait en quelque sorte partie de la famille. D'où était-il donc né pour avoir oublié qu'entre parents, se hait-on à mort, on se doit aide et protection dès qu'il s'agit de défendre ce patrimoine sacré qui s'appelle l'honneur. Étourdi comme un passant qui reçoit d'un cinquième étage une volée de pierre, M. Galpin d'Aveline gardait cependant assez de sang-froid pour se demander s'il n'y avait nul parti à tirer de cet incident extraordinaire. Un retour était-il impossible ? Aussi, dès que Mademoiselle Adélaïde s'arrêta, entreprit-il de se justifier, peignant en métaphores hypocrites la douleur dont il était saisi, jurant qu'il n'avait pas pu maîtriser les événements, que Jacques lui était plus cher que jamais. « S'il vous est si cher, interrompit Mademoiselle Adélaïde, faites-le mettre en liberté. »« Et le puis-je, mademoiselle ?»« Alors, donnez à sa famille et à ses amis la permission de le voir. » »« La loi me le défend. S'il est innocent, qu'il se disculpe. » S'il est coupable, qu'il avoue. Dans le premier cas, il sera libre. Dans le second, il recevra qui bon lui semblera. C'est peut-être aussi par amitié que vous vous êtes permis de lire une lettre de Jacques à sa fiancée. J'ai rempli en cela un des devoirs de ma pénible profession, mademoiselle. Ah ! Et cette profession vous défend-elle de nous donner cette lettre que vous avez lue ? Oui, mais je puis vous la communiquer. Il la tira d'un dossier, en effet, et la plus jeune des tantes, mademoiselle Élisabeth, la coupilla au crayon. Cela fait, elles se retirèrent, presque sans saluer. M. Galpin d'Aveline était ivre de colère. « Ah, les vieilles sorcières » s'écria-t-il. « Votre démarche me prouve que vous êtes loin de croire à l'innocence de Jacques. Pourquoi sa famille tient-elle tant à arriver jusqu'à lui ? Sans doute pour lui fournir le moyen de se soustraire par le suicide au châtiment de son crime. Mais de par Dieu, cela ne sera pas, je saurai l'empêcher. À quoi bon récriminer sur un fait accompli contre lequel on ne peut rien ? Si contrarié que fut Maître Folga lorsqu'il apprit de Mademoiselle Denise la démarche des tantes Lavarande, il évita d'en rien laisser paraître. N'était-ce pas à lui d'avoir du sang-froid pour tous ? Au milieu de cette famille si cruellement éprouvée, Monsieur de Chandoré, d'ailleurs, dissimulait mal son mécontentement, et en dépit de son respect pour les volontés de Mademoiselle Denise, « Certes, chère fille, je ne dis pas que tu as tort. Cependant, tu connais tes tantes et tu sais combien peu elles sont conciliantes. Elles sont capables d'exaspérer Monsieur Galpin d'Aveline. »« Qu'importe ! » interrompit fièrement la jeune fille. « La circonspection ne sied qu'au coupable et Jacques est innocent. »« Mademoiselle a raison, » approuva Maître Folga, qui parut ainsi subir, comme toute la famille, l'ascendant de Mademoiselle Denise. « Quoi que puissent faire ou dire les demoiselles de Lavarande, elles n'empireront pas la situation. Monsieur Galpin d'Aveline n'en sera ni plus ni moins un ennemi acharné. » Grand-père Chandoré eut un soubresaut. « Cependant, » commença-t-il, « Oh, ce n'est pas à lui que je m'en prends, » interrompit le jeune avocat, « mais à l'institution dont il subit la fatalité. Est-il bien possible qu'un juge d'instruction demeure absolument impartial en certaines causes retentissantes comme celle-ci, où il joue en quelque sorte son avenir ? On est certes un magistrat intègre, incapable de forfaiture, étroitement attaché au devoir, mais on est homme, mais on a ses intérêts. » On n'aime pas au ministère les enquêtes qui aboutissent à une ordonnance de non-lieu. Le juge qu'on récompense n'est pas toujours celui qui a le mieux su dégager la vérité d'une ténébreuse affaire.
« Mais monsieur Galpin d'Aveline était notre ami, monsieur. »
« Oui, et c'est là ce qui m'épouvante. Quelle sera sa situation le jour où monsieur de Boiscoran sera reconnu innocent ?»«
Enfin, nous allons savoir ce qu'ont fait les tantes à la Varande. »
Elles rentraient en effet très fières de leur expédition et agitant triomphalement la copie de la lettre de Jacques. Cette copie, mademoiselle Denise l'a prise, et tandis qu'elle se retirait à l'écart pour la lire, mademoiselle Adélaïde racontait l'entrevue, disant combien elle avait été ferme et dédaigneuse et combien M. Galpin d'Aveline lui avait paru humble et repentant.
« Car il a été foudroyé !» reprenaient en duo les vieilles demoiselles. « Car il a été anéanti, écrasé !»«
Oui, vous venez de faire un beau coup, grommelait M. de Chandoré, et je vous engage à vous en vanter. »
« Les tantes ont bien agi, » déclara mademoiselle Denise. « Voyez plutôt ce que m'écrivait Jacques. C'est précis, c'est net. Que pouvons-nous craindre après cette dernière phrase ? Soyez sans inquiétude, je saurai le moment venu dissiper cette funeste erreur. »
Ayant pris la copie et l'ayant lue, maître Folga hochait la tête. « Il n'était pas besoin de cette lettre, prononça-t-il, pour fixer mon opinion. » Au fond de cette affaire est un secret que nul de nous n'a pénétré. Seulement, M. de Boiscoran est bien téméraire de jouer ainsi avec un procès criminel. Que ne s'est-il disculpé tout de suite ? Ce qui était facile hier peut devenir difficile demain et impossible dans 8 jours.
Jacques, monsieur, s'écria mademoiselle Denise, est un homme trop supérieur pour qu'on ne s'en remette pas absolument à ce qu'il dit.
Madame de Boiscoran, qui entrait, empêcha l'avocat de répondre. 2 heures de repos avaient rendu à la malheureuse femme une partie de son énergie et de sa présence d'esprit accoutumée, et elle venait demander qu'on expédiât un télégramme à son mari.
« C'est le moins que nous puissions faire, » murmura M. de Chandoré, « quoiqu'en vérité ce soit bien inutile.
Boiscoran se soucie bien de son fils, ma foi. » Ah, s'il s'agissait d'une faïence rare ou d'une assiette qui manque à sa collection, ce serait une autre histoire. La dépêche n'en fut pas moins rédigée et envoyée au télégraphe, juste comme un domestique venait annoncer que le dîner était servi. Et ce repas fut moins triste qu'on ne l'eût supposé. Certes, chacun avait bien le cœur oppressé, en songeant qu'à ce moment même, c'était un geôlier qui servait à Jacques l'ordinaire de la prison. Certes, mademoiselle Denise ne sut pas retenir une larme en voyant maître Folga à la place où s'asseyait son fiancé. Mais personne, hormis le jeune avocat, ne croyait que Jacques fût vraiment en péril. Monsieur Sénéchal, par exemple, qui arriva au moment où on servait le café, partageait, c'était manifeste, les anxiétés de maître Folga. L'excellent maire venait chercher des nouvelles de ses amis et leur dire comment s'était passée la journée. L'enterrement des pompiers avait eu lieu sans bruit, sinon sans une profonde émotion. La manifestation qu'il redoutait n'avait pas donné signe de vie et le docteur Seignebault n'avait point pris la parole au cimetière. Manifestation et discours eussent été, du reste, mal accueillis, ajoutait M. Sénéchal, car il avait eu la douleur de constater que l'immense majorité des sauveterriens croyaient fermement à la culpabilité de M. de Boiscoran. Dans plusieurs groupes, il avait entendu des gens qui disaient « Et cependant, vous verrez qu'il ne sera pas condamné. Un pauvre diable qui aurait commis ce crime abominable serait sûr d'avoir le cou coupé. Mais lui, le fils du marquis de Boiscoran, vous verrez qu'on le renverra blanc comme neige. »
Le roulement d'une voiture qui s'arrêtait à la porte de la rue lui coupa fort à propos la parole.
« Qu'est-ce ? » fit mademoiselle Denise en se dressant.
On entendit dans le corridor un bruit de voix et de pas, quelque chose comme le trépignement d'une lutte, et presque immédiatement, la porte de la salle à manger s'ouvrit, et le fils du métayer de Boiscoran, Michel, parut en s'écriant « C'est fait, je le tiens, je l'amène !» Et en même temps, il attirait Cocoleux, lequel se débattait en grognant et jetait autour de lui les regards effarés de la bête prise au piège.
Par ma foi, mon gars, s'écria M. Sénéchal, vous avez été plus habile que les gendarmes. À la façon dont Michel cligna de l'œil, il fut aisé de voir que sa foi en l'habileté de la gendarmerie n'était pas illimitée. « Ce tantôt, dit-il, quand j'ai promis à M. le baron de dénicher Coqueleux, j'avais mon idée. Je savais que, dans le temps, il allait souvent se terrer, comme une bête puante qu'il est, dans une manière de trou qu'il s'était creusé sous des rochers, au plus épais des bois de roche-pommier. C'était le hasard qui m'avait fait découvrir ce terrier, car on passerait bien 100 fois à côté et même dessus sans se douter qu'il existe. Donc, quand M. le baron m'a dit que l'innocent avait disparu, j'ai pensé en moi-même « Sûr, il se cache dans son trou, allons voir. » Là-dessus, je prends mes jambes à mon cou, j'arrive au rocher et je trouve Coqueleux. Seulement, je peux dire que j'ai eu du mal à le tirer dehors, le gredin. Il ne voulait pas venir, et en se défendant, il m'a mordu la main comme un chien enragé qu'il est. Sur quoi, Michel agitait sa main gauche, enveloppée d'un linge ensanglanté. « Pour amener mon idiot, poursuivit-il, ça a été toute une histoire. J'ai été obligé de lui lier les mains et de le porter jusque chez mon père. Là, nous l'avons hissé dans notre cabriolet, et le voilà. Regardez-moi le joli garçon !» Il était hideux en ce moment, avec sa face livide, marquée de plaques rouges, ses lèvres pendantes, frangées de bave et ses regards hébétés. « Pourquoi ne voulais-tu pas venir ?» lui demanda M. Sénéchal. L'idiot ne sembla même pas entendre. « Pourquoi as-tu mordu Michel ?» insista le maire. Coqueleux ne répondit pas. « Sais-tu que M. de Boiscourant est en prison à cause de ce que tu as dit ?» Toujours pas de réponse. « Ah, ce n'est pas la peine de l'interroger, dit Michel. Vous le battriez jusqu'à demain, que vous lui feriez sortir l'âme du corps plutôt qu'une parole de la bouche.
« J'ai faim !» bégaya Coqueleux.
Maître Folga eut un geste indigné. « Et pensez, murmura-t-il, que c'est sur la déposition d'un tel être qu'on base une accusation capitale ?» Grand-père Chandoré, lui, semblait assez embarrassé. « Avec tout ça, demanda-t-il, qu'allons-nous faire de ce misérable idiot ?»«
Je vais moi-même, à l'instant, répondit M. Sénéchal, le conduire à l'hôpital et prévenir de la trouvaille le docteur Saignebose et le procureur de la République. »
Le docteur Saignebose avait des ridicules, c'est incontestable, et toutes les burlesques aventures que lui attribuaient ses ennemis n'étaient pas imaginaires. Il avait en tout cas cette qualité, devenue rare, de professer pour son art, comme il disait, un respect voisin du fanatisme. La faculté, selon lui, était impeccable, et volontiers, il lui attribuait l'infaillibilité qu'il déniait au pape. Il confessait bien dans l'intimité que certains de ses confrères étaient des ânes annonnants, mais jamais il n'eût permis à un profane d'émettre devant lui cette irrévérencieuse opinion. Du moment où un homme était muni de ce fameux diplôme qui confère le droit de vie et de mort, cet homme, à son avis, devait être pour le vulgaire un personnage auguste. C'était un crime, à ses yeux, que de ne point se soumettre aveuglément à l'arrêt d'un médecin. De là son opiniâtreté à tenir tête à M. Galpin d'Aveline, l'amertume de ses contradictions et le sans-façon avec lequel il avait prié ces messieurs de la justice d'aller procéder hors de la chambre où gisait son malade. Car ces diables-là, avait-il dit, tueraient un homme pour en tirer le moyen de faire couper la tête à un autre. Et là-dessus, reprenant ses pinces, ses bistouris et son éponge, il s'était remis à l'œuvre et, Madame de Claudieuse l'aidant, il avait recommencé à extraire les grains de plomb qui criblaient les chairs du comte. À 9 heures, il avait fini. « Non que je prétende avoir tout retiré, déclara-t-il modestement, mais s'il reste encore quelques grains, ils sont hors de ma portée et il me faut attendre que certains symptômes me révèlent leur présence. » Du reste, ainsi qu'il l'avait prévu, la situation de M. de Claudieuse paraissait fort empirée. À son exaltation première avait succédé une si grande prostration qu'il semblait insensible à tout ce qui se passait autour de son lit. La fièvre traumatique commençait à se manifester par de légers frissons et, étant donné la constitution du comte, il était aisé de prévoir que la journée ne s'écoulerait pas sans que le délire s'emparât de son cerveau. Je considère cependant le danger comme nul, dit M. Saignebourse à la comtesse, après lui avoir signalé, pour qu'elle ne s'en alarmât pas, tous les accidents qui pouvaient survenir, après lui avoir bien recommandé surtout de ne laisser personne approcher du lit de son mari, et M. Galpin d'Aveline moins que quiconque. La recommandation n'était pas inutile, car presque au même moment, un paysan vint annoncer qu'il y avait là un bourgeois de Sauveterre, lequel demandait à parler à M. de Clodieuse. « Qu'il vienne, répondit le docteur, c'est moi qui vais le recevoir. » C'était un nommé Theta, un ancien huissier, qui avait vendu son étude pour se lancer dans le commerce des pierres. Seulement, outre qu'il était ancien officier ministériel et négociant, ainsi que le portaient ses cartes de visite, le dit Theta était le représentant d'une compagnie d'assurance contre l'incendie. C'est en cette dernière qualité qu'il osait se présenter, déclara-t-il à la comtesse, parlant à sa personne. Il avait ouï dire que les bâtiments du Valpinçon, assurés à sa compagnie, venaient d'être détruits et que l'incendie avait été allumé sciemment par M. de Boiscoran. C'était sur ce sujet qu'il voulait conférer avec M. de Clodieuse. Loin de lui, protestait-il, la pensée de décliner la responsabilité de sa compagnie. Seulement, il tenait à réserver pour elle le recours légal contre M. de Boiscoran et serait certainement condamné à payer le sinistre dont il était l'auteur. Mais certaines formalités étaient nécessaires et il venait engager M. de Clodieuse à prendre de concert avec lui, Theta, les mesures. « Et moi, je vous engage à me montrer les talons !» s'écria M. Saignebourse d'une voix tonnante. « Et je vous trouve bien hardi de prononcer ainsi le nom de M. de Boiscoran. » M. Tétard fila sans mot dire, et c'est tout ému de cet incident que le docteur examina la plus jeune des filles de Mme de Clodieuse, celle qu'elle veillait au moment de la catastrophe et qui allait décidément mieux. Après cela, rien ne le retenait plus au Valpinçon. Il serra soigneusement dans sa trousse les grains de plomb extraits des blessures du comte. Puis, attirant Madame de Clodieuse jusqu'au seuil de la pauvre masure, « Avant de m'éloigner, madame, dit-il, je tiens à vous demander ce que vous pensez des événements de cette nuit. » Plus pâle qu'une morte, la malheureuse femme semblait ne tenir debout que par un miracle d'énergie. Il n'y avait en elle de vivant que les yeux qui brillaient d'un éclat extraordinaire. « Eh, le sais-je, monsieur » répondit-elle d'une voix faible. « Ai-je donc, après de si rudes épreuves, la tête assez à moi pour réfléchir ?»« Vous avez cependant interrogé Coqueleu. » « Qui n'aurais-je pas interrogé pour découvrir la vérité ?»« Et le nom qu'il a prononcé ne vous a pas stupéfié ?»« Vous avez dû le voir, monsieur. » « Je l'ai vu, et c'est pour cela que j'insiste et que je tiens à avoir votre opinion sur l'état mental de Coqueleu. » « Le malheureux est idiot, monsieur, ne le savez-vous pas ?»« Je le sais, et c'est pour cela que j'ai été surpris de votre insistance à le faire parler. Vous pensiez donc qu'en dépit de son imbécilité habituelle, il peut avoir quelques lueurs de raison ?»« Il venait l'instant d'avant d'arracher mes enfants aux flammes. » « Cela prouve son dévouement pour vous. » « Il m'est attaché, en effet, comme le serait un pauvre animal que j'aurais recueilli et dont j'aurais pris soin. » « Soit, et pourtant, son action dénote plus qu'un instinct purement bestial. » « C'est possible. Il m'est arrivé de surprendre chez Coqueleu des éclairs d'intelligence. » Ayant retiré ses lunettes d'or, le docteur les essuyait avec fureur. « Il est bien fâcheux, grommela-t-il, qu'un de ses éclairs ne l'ait pas illuminé quand il a vu M. de Boiscoran allumer le feu et se préparer à assassiner M. de Clodieuse. » Comme si elle eût été près de défaillir, Mme de Clodieuse s'accotait au montant de la porte. « C'est précisément, murmura-t-elle, à l'émotion qu'il a ressentie en voyant les flammes et en entendant les coups de feu, que j'attribue le réveil de la raison de Coqueleu. » « Possible, fit le docteur, possible. » Et, rajustant ses lunettes d'or, « C'est, ajouta-t-il, ce que décideront les hommes de là, à l'examen desquels ce misérable imbécile sera soumis. »« Comment, on va l'examiner ?»« Et de près, oui, madame, je vous le promets. Sur quoi, je vais avoir l'honneur de vous dire au revoir, car je reviendrai ici ce soir si vous ne réussissez pas à vous installer dans la journée à Sauveterre, ce qui serait bien désirable pour moi d'abord, puis pour votre mari et votre fille, qui sont fort mal dans cette cahute. » Et cela dit, soulevant légèrement son chapeau à large bord, le docteur Saignebose avait regagné Sauveterre et était allé tout droit demander impérieusement à M. Sénéchal l'arrestation de Coqueleu. Malheureusement, les gendarmes avaient fait buisson creux et M. Saignebose, qui voyait la fâcheuse tournure que prenait l'affaire de Jacques, commençait à s'impatienter horriblement lorsque, le samedi soir, sur les 10 heures, M. Sénéchal entra chez lui en s'écriant « Coqueleu est retrouvé !» D'un saut, le docteur fut debout, canne à la main, chapeau en tête, demandant « Où est-il ?»« À l'hôpital, où je l'ai moi-même installé dans une chambre isolée. » « J'y cours. »« Quoi ? À cette heure ? » ?»« Ne suis-je pas un des médecins de l'hôpital ? Ne doit-il pas m'être ouvert de nuit comme de jour ? » ?»« Les sœurs seront couchées. » Le docteur, à 10 reprises au moins, haussa les épaules. « C'est juste, fit-il, ce serait un sacrilège que de troubler leur sommeil à ces bonnes sœurs, à ces chères sœurs, comme vous dites. Ah, monsieur le maire, quand donc ferons-nous de la médecine laïque et quand donc remplacerez-vous vos saintes filles par de bons et solides infirmiers ?» Monsieur Sénéchal avait eu sur ce sujet trop de prise avec le docteur pour entamer une nouvelle discussion. Il se tut et fit bien, car monsieur Saignebosse se rassit en disant « Enfin, ce sera pour demain. »